la présence du pape peut être un élément positif à la fois pour le dialogue théologique et d'autre part pour encourager les fidèles à la base à avancer ensemble. Alors qu'il y a à l'heure actuelle une sorte de lenteur, voire de refroidissement de l'écuménisme et qu'on constate qu'il y a chez les uns et les autres une sorte de regain d'attention avant tout à l'identité particulière.
Vous parlez de lenteur, de refroidissement. Pourtant, en ce qui concerne le dialogue entre catholiques et luthériens, des pas importants ont été accomplis ces dernières années.
Tout à fait. Alors, il faut surtout évoquer, évidemment, ce qui s'est passé en 1999, qui est la déclaration commune sur la doctrine de la justification par la foi. Alors, ça, c'est une avancée considérable dans la mesure où c'est là-dessus que portait en un premier temps, avant tout, la division du XVIe siècle. C'est tellement important que Luther pouvait encore écrire dans les années 1530 que si le pape reconnaît la justification par la foi, je suis prêt à lui baiser les pieds. Donc il reconnaît que si on est d'accord sur l'annonce du salut, on pourra trouver aussi, d'après lui, un accord de reconnaissance mutuelle des ministères et de l'autre Église comme représentante aussi l'Église de Jésus-Christ. Dans le vécu des fidèles et des communautés, un rapprochement considérable s'est opéré. Les réunions communes sont monnaie courante et le climat de méfiance, pour ne pas dire plus, qui prévalait jusqu'à Vatican II, a largement disparu.
Alors, entre Vatican II et aujourd'hui, il y a eu Dominus Iesus, la déclaration de la Congrégation pour la doctrine de la foi, qui était dirigée à l'époque par le futur Benoît XVI et qui avait soulevé un tollé.
Est-ce que
cette page est tournée, à votre avis ?
Oui, je le souhaite vivement. Cette déclaration posait au fond la question de savoir si les autres chrétiens étaient rassemblés dans une église ou s'il fallait réserver le terme d'église à l'église catholique parce que c'est en elle, toujours d'après Dominus Iesus, qu'il y a le ministère du pape et la succession apostolique de type épiscopal dans l'église catholique. Cette structuration des ministères ne se retrouve en effet pas telle qu'elle dans les églises protestantes. C'est vrai que si on réserve le terme d'église à une conception faisant surtout place à la structuration hiérarchique et puis à la succession apostolique à travers le ministère épiscopal, les protestants ne sont pas unis dans ce type d'église.
Récemment, le président du Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens a laissé entendre que l'Église catholique et la Fédération luthérienne mondiale préparaient une déclaration commune sur la réforme en vue du 5e centenaire justement de la réforme en 2017, une sorte de mea culpa réciproque. Alors, est-ce que vous vous attendez à des déclarations de principe ou à de réelles avancées ?
Nous avons quelques années devant nous pour aboutir pas seulement à une déclaration de bonnes intentions, mais aussi à une déclaration qui va plus loin. Je pense que ce serait tout à fait possible en retirant les anathèmes que nous nous sommes adressés réciproquement. Or, la déclaration de 99, sur laquelle il faut toujours revenir, permettrait, à mon sens, de dire que ces anathèmes ne concernent plus aujourd'hui les luthériens. Inversement, Luther considérait au début des années 20 le pape comme l'antichrist. Nous pouvons aujourd'hui jeter un autre regard, malgré des critiques, sur le ministère du pape. Et peut-être pourrons-nous aussi avancer, toujours sur le plan théologique, dans la conception de la succession apostolique. Ce qu'il faut viser, c'est une reconnaissance de l'autre Église comme Église et comme Église de Jésus-Christ. Ce qu'il faut viser aussi, c'est l'hospitalité eucharistique.
Pasteur Linhart, vous n'ignorez pas qu'en Allemagne, l'Église catholique est traversée par un fort courant réformateur au pays de la réforme, justement. Alors, sans aller jusqu'à chercher des similitudes entre les intuitions et les interrogations de Luther et les revendications actuelles des courants catholiques, on va dire progressistes, est-ce que cela peut avoir un impact en vue du rapprochement entre catholiques et luthériens ?
Ce courant réformateur rejoint un certain nombre de préoccupations protestantes. Alors, je dirais qu'il faut toujours se garder de trop vouloir harmoniser les positions les uns et des autres. Le concept écuménique clé qui a été mis en avant dans le cadre de la déclaration commune a été celui d'un consensus différencié en lien avec un autre concept qui est celui de la diversité réconciliée. Il faut que nous restions fidèles à nos convictions tout en nous laissant interpeller par les autres. Je prends l'exemple du côté protestant qui doit se laisser interpeller quant à l'expression de leur unité, de leur ecclésialité. Trop souvent, les protestants ont privilégié unilatéralement l'église locale en oubliant que l'église est aussi universelle. Inversement, du côté catholique, on a quelquefois trop privilégié le ministère du pape ou des évêques en oubliant ou en négligeant l'église locale. Le courant réformateur catholique d'aujourd'hui insiste sur un certain nombre de valeurs et de démarches, la place des laïcs en particulier, la place du concile et des synodes, la place bien sûr de l'écriture sainte, tout à fait fondamentale. Et donc par beaucoup de côtés, je pense qu'il fera avancer le rapprochement entre catholiques et luthériens.
Dernière question, c'est un pape allemand qui se rend dans un lieu où Luther, le père de la Réforme, a vécu. Est-ce que cela aura un impact encore plus fort?
Oui, parce que il connaît quand même très bien le protestantisme et en particulier le luthéranisme allemand. Il a été évêque à Munich, il a été en contact avec l'évêque de l'église luthérienne de Bavière. L'actuel pape a enseigné à Tübingen. Il connaît bien l'église luthérienne, il connaît aussi Luther. Il est théologien, il connaît la théologie allemande. Donc il y a des raisons d'espérer que ce voyage portera des fruits et il est important qu'il aille précisément aussi à Erfurt, où se situent quasiment les débuts spirituels, théologiques de Luther. Avant même qu'on soit en 1517, Luther entre au couvent d'Erfurt en 1505 et donc les lieux où ça s'est passé sont importants. Tout cela joue pour comprendre la réformation.